Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Jean-Louis Cohen, vous êtes architecte et historien de l'art, historien de l'architecture, spécialiste de l'urbanisme du XXe siècle. Vous avez enseigné à l'Institut français d'urbanisme de Paris 8 et depuis 1994, vous êtes professeur à l'Université de New York. Vous êtes membre des conseils scientifiques du Musée d'art moderne de New York, du Centre canadien d'architecture de Montréal et du Getty de Los Angeles. Vous avez créé la Cité de l'architecture et du patrimoine où nous sommes en ce moment et où vous venez de construire et de créer une belle exposition dont vous allez nous parler. Et vous avez dirigé l'Institut français d'architecture et le Musée des monuments français jusqu'en 2003. Vous êtes actuellement professeur invité au Collège de France, titulaire pour 3 ans de la chaire architecture et formes urbaines. Merci de nous accorder cet entretien. Et pour commencer, quand, comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'architecture ?
Alors, je n'avais aucune raison familiale de m'intéresser à l'architecture. Du moins, le pensais-je. Je viens d'un milieu essentiellement centré sur la science, sur la recherche. Mes parents étaient
chimistes.
Ma mère était chimiste. Mon père était s'intéressait à la biologie des grands fonds marins avant de plonger dans la résistance, puis dans la politique après la guerre. Mon grand-père était professeur aux langues orientales, spécialiste des langues sémitiques. Donc, c'était un environnement plutôt scientifique. Je dessinais assez bien. Et j'étais assez curieux du monde, et donc progressivement, dans les années 60 parisiennes, je me suis mis à me demander si je n'allais pas aller vers le cinéma ou vers l'architecture. Et ce que je fis en entrant à l'école spéciale d'architecture avant 1968 et en commençant ma formation de façon complètement archaïque à dessiner la vie de portiques palladiens, oui. D'ailleurs dont je me félicite grandement parce que j'aime beaucoup l'architecture de la Renaissance.
Vous êtes un vrai Parisien, Jean-Louis Cohen. Vous êtes né à Paris, vous êtes né rue des Bleuets, dans un endroit un peu particulier par ailleurs, qui maintenant d'ailleurs a changé de lieu,
oui.
Alors, qui fait partie maintenant de l'hôpital Trousseau.
C'est ça, les Bleuets ont déménagé. À l'époque, les Bleuets, c'était la polyclinique des métallos,
voilà.
Où l'on expérimentait l'accouchement dit sans douleur. Et j'ai découvert sur le tard que l'architecte de ce bâtiment était Erwin Innen, architecte dont j'ai trouvé les traces avec de magnifiques bâtiments à Casablanca, ville sur laquelle j'ai écrit un livre assez lourd il y a une dizaine d'années.
Alors il y a, comme vous l'expliquez dans un très beau texte sur évidemment votre vocation d'architecte, il y a les romans de Jules Verne, La piscine de la Butte aux Cailles, qui est une pure merveille, évidemment.
De Louis Bonnier.
Et puis, enfin, vous dites que votre famille n'avait rien à voir avec l'architecture, mais je crois que votre mère participait quand même au chantier d'Auguste Perret à Sarclay.
Oui, ma mère qui était, après la guerre, après avoir été déportée, elle était chimiste et elle s'est trouvée secrétaire générale du commissariat à l'énergie atomique, volet scientifique. En 45, et donc elle a été maître d'ouvrage, dirait-on aujourd'hui, du campus de Saclay que Perret a étudié à partir de 1948 et qui est toujours présent. C'est un très très bel ensemble de bâtiments scientifiques de Perret.
Vous voulez bien qu'on ouvre une parenthèse sur votre mère ? Elle a été
volontiers
sauvée parce qu'elle était chimiste, n'est-ce pas ?
Oui, l'histoire de ma mère est assez intéressante. Ma mère était chimiste, elle était dans un réseau de résistance qui a été dénommé par la police de Vichy le réseau de la maison de la chimie, donc avec ses camarades.
Comme il y avait le réseau du musée de l'homme,
voilà,
etc.
Voilà, avec ses camarades, elle sortait des matières potentiellement explosives pour les donner à la résistance. La responsable du réseau réseau France Bloch, la fille de l'écrivain Jean-Richard Bloch, a été arrêtée avec elle. Elles ont été toutes les deux condamnées par la justice de Vichy. France Bloch condamnée à mort et elle sera exécutée à Hambourg en 43, je crois. Et ma mère sera, avec d'autres résistants, donnée aux Allemands, déportée dans un convoi d'otages en janvier 43. Et elle restera donc à peu près 25 mois où, à Auschwitz, à Ravensbrück, à Mauthausen, dont elle reviendra. À Ravensbrück, Mauthausen, elle croisera d'autres grandes résistantes, celles qui viennent d'entrer au Panthéon, et donc elle participera de toute cette saga des femmes intellectuelles déportées.
Elle a été sauvée d'une manière un peu particulière. Il y a une histoire liée au fait qu'elle ait survécu. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, Jean-Luc Cohen, parce qu'elle est quand même très belle, cette histoire.
Oui, c'est une histoire intéressante qui recoupe, que je connaissais fort bien, mais dont j'ai compris autrement en travaillant sur un ouvrage intitulé Architecture en uniforme, sur l'architecture pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que je me suis intéressé aux architectes qui ont construit à Auschwitz, un endroit saturé d'architectes. À Auschwitz, c'était un projet de ville industrielle pour 200 000 habitants, dont 100 000 dans le camp, et des dizaines d'architectes allemands, nazis, convaincus ou moyennement convaincus, des prisonniers aussi ont participé. Et un de ces prisonniers a construit une serre pour cultiver le coq saguise, pissenlit géant, avec lequel les chimistes nazis imaginaient pouvoir faire du caoutchouc synthétique. Et ma mère, aussitôt arrivée dans ce camp d'Auschwitz, avec certaines de ses camarades, comme Hélène Langevin, la fille de Paul Langevin, ont été recrutées pour aller travailler dans ce laboratoire d'expérience biochimique, ce qui lui a très certainement sauvé la vie, car elle a tout simplement eu un toit sur la tête pendant l'hiver polonais.
Et puis enfin, les nazis avaient besoin d'elle pour fabriquer
donc,
du caoutchouc.
Voilà, donc ces femmes s'en sont sorties, comme Simon Sirkus, l'architecte, s'en est sorti en dessinant des baraques dans le bureau des SS.
Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé au Collège de France? D'abord, vous êtes quand même passé par, évidemment, l'université, et puis, naturellement, New York. Alors, vous vivez en partie à New York.
Oui, je dirais.
C'est quand même une des plus belles villes du monde, enfin.
Ah, je crois que c'est une ville absolument foudroyante de beauté.
On l'a
longtemps considérée comme étant prosaïque et hideuse. Il faut se souvenir que, oui, et les Américains eux-mêmes pensaient qu'ils n'avaient aucune contribution à apporter à la beauté du monde et que leur destin était de reproduire l'ancienne Europe. C'est ce que les Américains pensaient jusqu'aux années, peut-être jusqu'aux années 30. C'est Marcel Duchamp qui, le premier arrivant à New York en 1915, a dit « New York est en soi une œuvre d'art ». Et donc, pour ce qui me concerne, je navigue entre, essentiellement, il y a d'autres villes dans ma collection, mais je navigue essentiellement entre Paris et New York, qui est un lieu, pour moi, une sorte d'ermitage métropolitain, un lieu où je me cache, en haut de ma tour, mais aussi où, avec des étudiants très, très bien formés, des bibliothèques phénoménales, je peux faire des recherches dans tous les domaines qui me passionnent. C'est-à-dire que c'est sans doute la seule ville au monde où on peut travailler à la fois sur l'Allemagne, la Russie, l'Italie et la France, y trouver les périodiques, puisque le savoir du monde n'est heureusement pas encore totalement numérisé. Et donc, c'est un lieu extrêmement fécond de travail, bien que, par ailleurs, je considère que Paris reste ma ville de prédilection, ma ville mère, si vous voulez. Ma ville mère serait Paris, ma ville père d'adoption serait New York.
Comment est-ce que vous évaluez le travail qui se fait à Paris et le travail qui se fait à New York? Est-ce que les architectes, la formation que vous, enfin vous formez des architectes et des historiens de l'art?
Je forme des historiens de l'art, mais j'enseigne aussi aux architectes à Princeton.
Donc les deux, oui. Vous tenez les deux bouts à la fois, c'est-à-dire l'histoire de l'architecture et la formation d'architectes. Comment est-ce que vous évaluez la différence ou les rapprochements ou les intérêts des enseignements en France et aux États-Unis?
Je dirais que le système américain est un système beaucoup plus grand. Il y a à peu près une centaine d'écoles d'architecture aux États-Unis. Il y en a deux douzaines en France. C'est un système qui est, par bien des égards, plus professionnel, plus efficace.
Ah oui.
Bien qu'il soit ou peut-être parce qu'il est dans le système universitaire, les écoles sont dans les universités, les écoles d'architecture en France, qui ont par ailleurs plein de qualités, plein de problèmes aussi, ont quitté les beaux-arts, ont quitté l'académie, sans jamais atterrir à l'université. Donc cela reste, elle reste, sauf exception, on y fait de la recherche, c'est vrai, mais elle reste un milieu dans l'ensemble hostile à la pensée et à la recherche. Et c'est une grande carence, car les architectes qui comptent dans le monde d'aujourd'hui sont ceux, je pense à des gens comme Rem Koolhaas en particulier, sont des gens qui se sont formés d'une certaine manière par la recherche, par la réflexion, par la culture.
Et des gens comme Piano aussi, par exemple.
Piano, c'est différent. Piano est quelqu'un qui s'est formé sur le chantier, qui vient d'un milieu d'entrepreneur et qui arrive à l'architecture par la construction.
Oui, mais il était passé quand même par l'école italienne où on enseigne l'histoire de l'art.
Oui, il était passé par le liceo italien. Non, mais je crois qu'on peut dire à quelques exceptions près, et je ne ferai pas de nom, qu'aucun grand architecte n'a été analphabète, même si, et que beaucoup par ailleurs n'ont pas, beaucoup des grandes figures de l'architecture moderne, j'en citerai trois, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe et Le Corbusier, n'ont pas fait d'études d'architecture, ou très peu. Donc il est nul besoin de finir ses études, encore qu'aujourd'hui tout ceci soit fort verrouillé, pour devenir un architecte qui compte, et en revanche, il est indispensable d'avoir de la culture.
Oui, absolument. Alors, comment est-ce qu'on peut former un regard? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en France, le regard est-il si mal formé?
Je crois qu'on cumule les carences de l'enseignement secondaire et puis d'un enseignement d'architecture qui, à mon avis, qui est dans l'ensemble meilleur que celui que recevaient les étudiants des beaux-arts, qui apprenaient la gestuelle de l'architecture, qui apprenaient à penser les monuments. Mais souvenons-nous qu'avant 1968, aucun étudiant des beaux-arts n'avait été invité à dessiner un immeuble de logement collectif, à un moment où la France produisait 450 000 logements par an. Donc les architectes étaient totalement impréparés. Et ce qui est une des explications de la médiocrité criminelle des grands ensembles, effectivement, il y a des explications économiques, politiques, mais il y a aussi des explications culturelles.
Évidemment.
Alors aujourd'hui, les écoles, je crois qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est un milieu contradictoire dans lequel beaucoup de jeunes enseignants ont fait des études avancées, font de la recherche, s'efforcent de transmettre des positions et un regard, mais c'est un enseignement pauvre, c'est un enseignement de masse, en tout cas au niveau du premier cycle, dans lequel une sorte de culte du projet se pratique au détriment peut-être d'enseignements plus culturels qui permettraient aux étudiants d'avoir un regard critique.
Jean-Louis Cohen, vous avez créé donc la Cité de l'architecture et du patrimoine, où nous sommes actuellement. Vous avez terminé d'ailleurs de l'organisation de l'exposition, et j'aimerais bien que vous nous en parliez d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quel contexte cette Cité de l'architecture est née?
Oui, alors l'idée d'un grand projet sur l'architecture et son histoire, c'est une idée que j'avais depuis longtemps en observant les institutions à l'étranger, en me désolant du fait que l'école des Beaux-Arts, qui a des collections historiques remarquables, était pratiquement fermée à tout le monde, que le musée des monuments français, ici, dans les galeries de Chaillot, végétait. Et donc, depuis très longtemps, j'émettais des messages sous forme de courriers ou de notes. Et François Barré, qui a été le premier directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère de la Culture, m'a demandé m'a demandé de faire des propositions. J'ai proposé cette institution. Je l'ai définie, je l'ai mise sur pied. J'ai réussi finalement à la faire exister en menant une bataille sur deux fronts, épuisante pendant environ 5 ans, contre les patrimoniaux, je dirais, de stricte obédience, qui s'offusquaient de ce qu'un projet soit monté ici avec les crédits des monuments historiques et qu'il fasse entrer l'architecture moderne qu'il détestait, qu'il trouvait illégitime dans cette enceinte sacrée. Donc les patrimoniaux d'un côté, et d'un autre côté, une frange, je dirais, dirais, la plus hystériquement avant-gardiste de l'architecture française, qui considérait qu'il valait mieux végéter, être entre soi dans le charmant hôtel particulier de la rue de Tournon.
Bien sûr.
Endroit évidemment qui a l'aura des cours du séminaire de Barthes et de tous ceux qui enseignaient à l'école des hautes études dans les années 70. Qu'il valait mieux donc être entre soi dans un charmant hôtel particulier vide de public plutôt que d'être perdu dans un grand palais comme celui de Chaillot.
Jean-Louis Cohen, est-ce que vous ne pensez pas que la France est toujours un peu fromage ou dessert, ancien ou moderne, au lieu de tenir les deux à la fois?
Absolument.
Au fond, c'est ça qu'il faudrait faire, être à la fois ancien et moderne. Et d'ailleurs, peut-on être moderne si on ne connaît pas l'ancien? C'est une question.
Écoutez, à nouveau, Frank Lloyd Wright avait lu parfaitement Viollet-le-Duc. Le livre qui l'a le plus inspiré, c'était Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Le Corbusier avait fait le tour de la Toscane et était allé jusqu'à Istanbul. Et Mies van der Rohe avait découvert Palladio avec Delis et Schinkel en plus à Berlin, surtout Schinkel. Donc, si vous voulez, mon dessein était de porter en avant ce projet, d'en développer les collections. En étant conscient aussi des limites de celles du Musée des Monuments Français créées par Viollet-le-Duc et ses successeurs pour célébrer l'architecture médiévale, éventuellement la Renaissance française. Donc c'était difficile de faire de développer ces collections. Je l'ai proposé en élargissant les présentations contemporaines, vu que l'Institut français d'architecture, une des composantes de la cité, a la plus grande collection de dessins d'architecture d'Europe continentale et qui n'était jamais montré, qui est montré en partie d'ailleurs, dont certains éléments sont montrés dans l'exposition actuelle. Donc je pensais qu'il fallait s'appuyer sur ces ressources et aussi donner une image plus transnationale de l'architecture, ce qui était d'ailleurs le propos du premier musée des monuments français qui parlait aussi de la Grèce et de l'Italie, du musée de sculpture comparée initial. Et lorsque j'ai été purgé par Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, qui apparemment devait recaser des membres de cabinets ministériels. Le premier président de la cité, qui donc m'a succédé, a inauguré l'équipement en 2007, m'a reçu courtoisement et m'a dit « Monsieur Cohen, quand même, votre projet était par trop cosmopolite.
» Non.
Voilà.
Est-ce que c'est possible qu'on fasse ce type de...
C'est possible, on peut faire ce genre de remarques.
Ne nous étonnons pas d'avoir le Front National à la porte avec des gens qui réagissent
donc
de cette manière.
Cette remarque m'a cloué sur ma chaise. Et ce qui est vrai, c'est que le projet a été achevé par mes collègues qui ont fait leur travail correctement, mais qu'une partie de cette dimension qui consiste à sortir de l'Hexagone a été gommée. Elle ne l'est pas dans les expositions de la cité, qui a une grande ouverture internationale, notamment sous la direction de Guillaume Salem. Donc les choses sont différentes. Et puis, je dirais, au fond, parce que nous ne pouvons pas parler que de cette opération, je dirais au fond que j'ai contribué, pour utiliser une métaphore informatique du XXIe siècle, j'ai contribué à former le hardware, l'infrastructure, le software peut maintenant changer. La donnée fondamentale,
la base est bonne,
c'est qu'il y a à Paris un lieu où l'architecture est chez elle, et où elle peut aussi, c'est à mon avis un rôle important, offrir l'hospitalité aux autres disciplines, au cinéma, aux arts, aux humanités.
Mais oui. Alors, on va parler un peu de votre travail au Collège de France, si vous voulez bien, Jean-Louis Cohen. Donc, vous occupez pendant 3 ans, puisque vous êtes professeur invité, dans la mesure où vous enseignez finalement à New York et que vous n'avez pas voulu renoncer à New York. Je crois que c'est ça le...
Oui, c'est un des facteurs. Et l'autre facteur aussi, c'est que j'étais la limite. Très concrètement, la limite d'âge au collège est de 70 ans.
Oui.
Quand on m'a proposé quand j'ai commencé à discuter avec mes chers collègues du collège, j'avais presque 65 ans. Les procédures sont très longues, donc la nomination complète est une procédure très lourde. Et donc, il semblait qu'elle n'avait guère de sens compte tenu de ma longévité potentielle, si je puis dire.
Ouais. D'accord. Cela dit, vous êtes donc titulaire de la chaire Architecture et Formes urbaines. Donc, vous avez prononcé votre leçon inaugurale le 21 mai 2014, dans cette très belle salle d'ailleurs, qui est la salle Marguerite de Navarre, qui est une des plus belles salles moderne de Paris, je trouve.
Oui, le collège a été rénové. Donc, c'est une magnifique salle, tout à fait hospitalière aux discussions. C'est une véritable salle de conférences et de débats.
Et de concerts aussi,
et de concerts,
on l'a découvert.
Oui, qui a été conçu par Jean-Michel Villemotte et Bernard Huette. Le tandem assez inattendu, Villemotte, grand architecte d'intérieur, extrêmement rigoureux et capable de mener de grands projets. Et Bernard Huette, figure extrêmement attachante de l'architecture et de son histoire, qui est un des rénovateurs de la pensée française depuis les années 60.
Dans cette conférence inaugurale, donc, qui est publiée chez Fayard...
Pas encore, elle ne l'est pas, non.
Elle va l'être en...
Alors je suis mal informé, elle le sera.
Mais en tout cas, toutes les conférences et le son inaugural sont
publiées. Oui, mais il s'agit d'une catégorie un peu différente. En tout cas, elle est accessible, si je ne m'abuse, sur le site du collège.
Tout à fait. Donc, vous parlez d'ailleurs de la présence de l'architecture au Collège de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, je crois qu'il n'y a jamais eu d'enseignement explicite sur l'architecture. Il y a eu des architectes, il y a eu un architecte pendant la guerre. Antoine Compagnon l'avait rappelé en présentant. Mais il y a eu quand même une préoccupation de l'architecture qui a, dans les enseignements d'histoire de l'art, André Chastel
historien de l'architecture.
Était historien d'architecture. Donc il y a eu une présence de l'architecture en tant que province, je dirais, de l'histoire de l'art dans certains enseignements. Michel Foucault lui-même s'intéressait beaucoup à l'architecture, a écrit
toute la répression, etc.
Oui, et a écrit un texte très important intitulé « Des espaces autres » dans lequel il propose le concept, il définit le concept d'hétérotopie.
D'hétérotopie, bien sûr.
Qui est un texte capital. Ah, oui. Donc,
les espaces carcéraux, enfin.
Bien sûr, il l'a ensuite illustré avec Surveiller et punir, mais la préoccupation architecture était présente, mais l'idée d'avoir un enseignement spécifique sur l'architecture, finalement, n'avait jamais été considéré. Donc, j'ai intitulé cette chaire triennale Architecture et forme urbaine parce que j'ai toujours le plus grand mal à séparer les objets architecturaux des villes qu'ils constituent ou dans lesquelles ils s'incrustent, je dirais.
Alors, on peut dire peut-être quelque chose d'un peu banal, si vous me permettez ce truisme, c'est que quand même l'architecture est le seul art au monde qui s'adresse absolument à tout le monde. Et de façon gratuite. On se promène et on a affaire à la beauté ou pas.
Oui, je dirais que c'est le seul art inévitable.
Voilà.
On peut passer devant un musée, ne pas entrer dans une salle de concert, on est enveloppé dans l'architecture, ou en tout cas dans la construction. Alors ensuite s'ouvre la discussion de savoir ce que l'on considère. Est-ce que l'architecture, c'est de facto toute construction? Est-ce que l'architecture, ce ne sont que les constructions artialisées? C'est une autre question.
Bien sûr.
Je suis personnellement pour une définition vaste de l'architecture et je dirais que l'architecture dite savante, celle des architectes, celle des gens formés pour la projeter, c'est toute l'architecture qui s'est très souvent, et dans la période moderne et contemporaine particulièrement, intéressée à l'architecture vernaculaire, à celle qui était faite par ses utilisateurs directs ou par des artisans ou en tout cas par des gens sans formation savante.
Jean-Louis Cohen, on va peut-être examiner un peu les cours que vous avez donnés jusqu'à présent et puis même essayer de voir un peu ce que vous allez raconter l'an prochain à vos étudiants ou à vos auditeurs du Collège de France. Donc 2014, architecture et politique en France au XXe siècle. D'ailleurs, vous en avez fait un livre.
Oui, ces cours, donc ces six cours, intervenaient à la fin d'une recherche entreprise il y a très longtemps, publiée sous le titre « L'architecture au XXe siècle en France, modernité et continuité » chez Azan, un livre qui vient d'ailleurs d'être publié dans une version plus triste, mais aussi plus accessible, moins coûteuse, chez Reaction à Londres. Donc, si vous voulez, beaucoup de gens de mon profil d'historien s'intéressant à l'architecture, je me définirais d'ailleurs ici plus comme historien que comme historien de l'art, et encore moins comme historien de l'architecture. Et ce livre, c'est la perspective ou la problématique de ce livre qui inscrit l'architecture dans l'histoire de la France contemporaine, dans son histoire politique, dans son histoire économique, dans sa culture, autant que j'ai réussi à le faire. Et donc, mon propos était de présenter sans sectarisme et sans fétichisme de l'architecture, de Le Corbusier, des modernes de l'après-guerre, une chronique des idées qui ont formé l'architecture et l'urbanisme et la forme des villes en France depuis la fin du XIXe siècle, en soulignant peut-être trois aspects qui, à mon sens, sont caractéristiques, qui surdéterminent tous ces développements, c'est-à-dire, d'une part, la présence permanente de l'État. C'est une architecture qui a grandi sous l'aile protectrice de l'État et qui a été fortement déterminée par les politiques publiques jusqu'à ce jour, bien que l'État reflue aujourd'hui, il reste quand même très présent. C'est une architecture qui a été très marquée par l'idéologie ou la doctrine du rationalisme structurel. L'idée que l'architecture,
c'est quoi ça alors ?
L'idée que l'architecture, c'est avant tout la structure, la construction. Alors qu'on pourrait considérer que pour les Allemands, l'architecture, c'est avant tout du Raum, de l'espace.
C'est l'urbanisme, ça, l'espace.
Non, mais l'espace intérieur, l'espace des bâtiments, l'espace que l'on habite, c'est le Raum.
Oui. D'accord.
C'est de ce point de vue que je l'entends. C'est l'espace intérieur. Voilà. Pour les Français, et il y a eu des débats très intéressants là-dessus tout au long du XXe siècle, c'est plutôt autour de la construction, c'est la construction qui détermine l'architecture. Depuis les métaphores organiques utilisées au XIXe siècle, bâtiments assimilés, dont l'ossature était assimilée à un squelette, dont la façade, l'enveloppe assimilée à la peau, etc. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, on retrouve ces idées. Donc, deuxième idée, c'est celle sur laquelle l'architecture serait avant tout du construit et pas du spatial. Et ça a des implications importantes. Et la troisième grande détermination qui pourrait sembler avoir disparu, c'est la constance de l'enseignement des beaux-arts, de l'école des beaux-arts, l'existence d'une école centralisée, adossée à l'académie, d'un système hiérarchique de formation des architectes censés devenir les grandes figures de la fonction publique, un système complètement différent du système anglais où il n'y a pratiquement pas eu d'école d'architecture jusqu'au XXe siècle et où la formation se faisait dans les agences, dans les ateliers, très différent du système décentralisé aux États-Unis et bien sûr en Allemagne.
Et en Italie.
Ou en Italie. En Italie, le système était différent, mais le cas d'Allemagne est intéressant. Les Allemands ont développé leurs écoles à partir des deux modèles créés en France. L'école des Beaux-Arts et l'école polytechnique, mais ils en ont fait des écoles dans lesquelles la recherche s'est implantée très tôt. La première thèse de docteur en architecture soutenue en Allemagne l'a été en 1898. Donc ça fait très longtemps que cette idée du rapport entre la culture et le projet est implantée. Donc ce sont ces trois déterminations, l'État, la construction et la tyrannie de l'école des Beaux-Arts, qui était, il faut le dire, une tyrannie du dessin, de la composition. On apprenait la composition, c'est-à-dire la création de séquences d'espace que l'on pouvait parcourir harmonieusement. Il y avait des savoirs authentiquement tout à fait légitimes.
Mais ça, c'est très important quand même.
Et très important. Oui. L'enseignement des Beaux-Arts, c'était notamment l'enseignement de la bonne marche, ce qu'on appelait la bonne marche à l'intérieur d'un édifice. Mais dans le même temps, c'était un enseignement qui était très centré sur son aspect graphique, sur ce que l'on appelait le rendu. Et donc, l'idée que les étudiants devaient faire des affiches, que les projets devaient se voir, être vus par le jury à 20 mètres de distance, et faire impression. Et cette obsession du dessin, de la représentation, je dirais que c'est un refoulé. Ma génération l'a rejeté, mais ce refoulé revient pour une part dans l'architecture contemporaine avec la tentation de l'image, plus que celle de l'espace habitable.
Comment est-ce que vous définiriez cette architecture française du point de vue de ses effets directs? Vous faites une exposition là consacrée à un certain nombre d'architectes entre les années 60 et 1985. Cette architecture française a évidemment produit de choses magnifiques. Elle a aussi finalement cassé des choses aussi magnifiques. Et comment est-ce qu'on peut essayer de penser cette espèce de dilemme qui fait que d'un côté on arrive à foutre en l'air des merveilles et de l'autre côté, en effet, on arrive à faire surgir des formes nouvelles tout à fait intéressantes.
Écoutez, l'architecture est un produit social, c'est le produit d'une société qui est aux prises avec la modernisation, avec un processus...
La modernisation ne suppose pas forcément la laideur.
La modernisation, c'est un processus dans lequel l'économie domine, dans lequel l'architecture est une très faible partie de la construction. Les architectes construisent à peu près 10% des bâtiments qui se font en France, au grand maximum, et très peu de maisons. Donc, ils sont marginaux, et il faut bien voir que dans cette marginalité, il y a ensuite des œuvres très différentes. Il y a des édifices monumentaux qui sont des grands programmes publics, la production des bureaux, des bâtiments d'entreprise, et il y a une sorte de façon très capillaire et très décentralisée, parfois difficile à discerner, une production expérimentale, attentive, qui est celle à laquelle je m'intéresse, mais qui est fort minoritaire.
Alors, est-ce que vous pouvez, Jean-Louis Cohen, nous en parler un peu de cette exposition qui a lieu actuellement, sur laquelle d'ailleurs vous avez écrit un livre qui vient de paraître, ça s'appelle AUA.
AUA, Atelier d'urbanisme et d'architecture, qui est un des collectifs qui ont marqué l'architecture européenne, pas seulement française. Cette idée de la pratique collective, elle est très répandue dans l'Europe de l'après-guerre.
Vous dites que c'est une architecture de l'engagement. Hein, donc
oui, alors j'insiste sur cet aspect de l'engagement. L'AUA était un collectif qui formé donc en 60 par Jacques Allégret, urbaniste, qui a été innovant dans beaucoup de domaines. Le premier, c'est sans doute celui de la pluridisciplinarité. Ces architectes ont été les premiers à faire la critique des grands ensembles en liaison avec des sociologues comme Paul-Henri Chambardelot. Ils ont été les premiers à travailler avec des paysagistes. Et on peut même dire que l'idée du paysage moderne, l'idée que le paysage, ce n'est pas que les jardins, ou la bordure verte des bâtiments, mais qu'on peut penser le paysage à grande échelle et que l'on peut refaire des villes autour de grands parcs et de structures, structures boisées.
Aussi, ça fait partie de l'urbanisme. Hein.
Oui, mais l'urbanisme tournait le dos en théorie. Bien sûr, dans l'abstrait, mais dans la pratique, ces considérations n'étaient pas centrales.
D'accord.
Dans l'urbanisme français. C'est grâce à l'AUA que c'est apparu, notamment avec le projet de la ville neuve de Grenoble dans les années 70. Projet extrêmement important parce qu'il était fondé sur la critique des grands ensembles. Donc l'AUA a été une agence qui a été critique des grands ensembles, même si elle a réalisé de petits ensembles dans beaucoup de cas. C'est une équipe qui avait beaucoup plus de culture que ses collègues et qui notamment a fait, je dirais, fonctionner dans le champ d'architecture des idées venues du théâtre et en particulier de Brecht. L'idée de la distanciation, l'idée que un édifice devait montrer comme la manière dont il avait été constitué et construit, de la même manière que le théâtre brechtien brise l'illusion scénique en rappelant à tout moment au spectateur qu'il est au théâtre.
En même temps, Jean-Louis Cohen, ça veut dire qu'il y avait un respect pour les pauvres, pour les couches populaires qui étaient magnifiques et qui nous manquent gravement aujourd'hui.
Paul Chemetov, qui est un des fondateurs de l'AUA, avec Jean de Roche, avec Jacques Calice, avec ensuite Henri Siriani, Michel Corajou, Bora Udobro, Fabre Perrotter, architecte de théâtre, qui ont construit 25 théâtres à eux deux. Donc Paul Chemetov, qui est sans doute celui qui a le plus parlé au nom de ses camarades et en son nom propre, disait qu'ils avaient donné l'architecture aux pauvres, mais en échange, ils avaient paupérisé l'architecture. C'est-à-dire qu'ils avaient introduit dans l'architecture de la France des Trente Glorieuses, de la France du béton triomphant, ils étaient revenus à des matériaux pauvres, la brique, le parpaing, le métal apparent, et qu'ils avaient, essayé d'élaborer une esthétique intelligible. Et en s'opposant à...
Ce sont des très beaux matériaux.
Voilà. Et donc, aller à Vigneux voir les briques rouges, un ensemble construit en 65 par Chemetov et de Roche, qui est d'une très grande beauté, et qui est issu à la fois d'une rumination sur certaines idées de Le Corbusier, de l'après-guerre, d'une réaction à l'architecture du néo-réalisme italien. Donc c'est une architecture très, très fine. Et on trouve cette constante de la... d'une culture ouverte dans les autres projets de cette équipe. Et donc l'exposition n'est pas très grande, mais je pense qu'elle restitue bien cet engagement, c'est-à-dire qui sait matérialiser comment, par le dialogue entretenu pendant 40 ans par Jean de Roche avec le maire d'Orly, Gaston Viens, de manière à faire une vraie ville là où il y avait un vieux village et un grand ensemble, essayer de dépasser cela. Ça s'est matérialisé dans certaines villes de la banlieue, comme Pantin ou encore à Grenoble.
Alors, vous avez prononcé, bien entendu, le nom de Le Corbusier. Vous avez écrit sur Le Corbusier, La planète comme chantier. Donc, on va rester encore un peu en France. Certains, évidemment, pensent que Le Corbusier est à l'origine des bars absolument abjects dans lesquels les gens vivent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Le Corbusier, justement, et de sa place à l'intérieur de ce dispositif français ?
Bon, rude tâche, car Le Corbusier a laissé 75 bâtiments seulement, 75 ensembles, disons bâtiments ou ensembles. Il a laissé 45 livres, mais aussi 1,5 million de documents d'archives, des milliers de dessins. Et donc, c'est une œuvre considérable à laquelle je me suis intéressé par divers angles. Et je dirais que, comme l'a dit Malraux en prononçant son oraison funèbre dans la cour du Louvre pendant l'été 65, après la mort de Le Corbusier, il disait « Aucun architecte n'a été aussi insulté, aussi injurié, et c'est dans l'insulte qu'il puise sa grandeur ». Donc Le Corbusier a été insulté, pourquoi ? Parce que c'est à cause de la dimension prophétique de son œuvre. Donc il y a chez Le Corbusier à la fois cette dimension prophétique qui fait qu'on peut l'accuser d'avoir fait les grands ensembles alors qu'il était contre. Il était totalement hostile aux grands ensembles. C'est pas lui qui les a inventés, ce sont les membres du cabinet du ministre de la Reconstruction, Claudius Petit. Ça n'est pas Le Corbusier. Il avait une autre idée. Son idée, c'était l'unité d'habitation, ces grands immeubles équipés qui sont aujourd'hui totalement adorés par leurs habitants, à Marseille ou à Nantes, par exemple. Donc, on lui a beaucoup prêté parce qu'il a beaucoup revendiqué. Dans le même temps, prophète, il était aussi poète et a créé des bâtiments, villas, la chapelle de Ronchamp, le couvent de la Tourette, qui ont une très grande force poétique aujourd'hui. Donc, je crois que c'est un être très complexe, sur lequel on a beaucoup écrit. Je vais, en novembre, à Valence, en Espagne, où un congrès va rassembler 150 jeunes chercheurs qui tous ont des choses nouvelles à dire. Donc c'est une œuvre qui n'a pas fini de vivre, bien qu'elle soit parfois menacée par les intempéries. Donc pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup sacrifié, sans doute un peu trop, mais je me suis intéressé à certains aspects paradoxaux de son travail, et notamment, en tout cas, à ses réflexions sur la ville, à son rapport à la politique, qui était très complexe, entre autres.
Le Corbusier a connu de grands rivaux dont quelques-uns nous font l'honneur d'être présents et les autres sont morts. Mais aucun n'a signifié avec une telle force la révolution de l'architecture parce qu'aucun n'a été si longtemps, si patiemment insulté. La gloire trouve à travers l'outrage son suprême éclat. Et cette gloire-là s'adressait à une œuvre plus qu'à une personne qui s'y prêtait peu. Il avait été peintre, sculpteur et plus secrètement poète. Il ne s'était battu ni pour la peinture, ni pour la sculpture, ni pour la poésie. Il ne s'est battu que pour l'architecture. Avec une véhémence qu'il n'éprouva pour rien autre, parce que l'architecture seule rejoignait son espoir confus et passionné de ce qui peut être fait pour l'homme. Sa phrase fameuse « Une maison est une machine à habiter » ne le peint pas du tout. Ce qui le peint, c'est son autre phrase « La maison doit être l'écrin de la vie, la machine à bonheur ». Il a toujours rêvé de ville. Et les projets de ces cités radieuses sont des tours surgies d'immenses jardins. Cet agnostique a construit l'église et le couvent les plus saisissants du siècle. Il disait à la fin de sa vie, « J'ai travaillé pour ce dont les hommes d'aujourd'hui ont le plus besoin, le silence et la paix. »
Alors, 2015, Jean-Louis Cohen, votre cours s'intitulait « L'américanisme en Russie, architecture, design, urbanisme ». Il est vrai que quand on est à Moscou, par exemple, on a parfois l'impression d'être à New York.
Oui, New York ou Chicago.
Ou Chicago, oui.
Les Russes, la Russie. Et cela commence avant la Révolution. Pour moi, le moment inaugural dans cette fascination de la Russie, des élites russes pour l'Amérique, c'est 1877, l'exposition du centenaire d'indépendance à Philadelphie.
Ah oui, déjà.
Que visite Dmitri Mendeleïev, qui est le grand chimiste, et Vladimir Chouchov, que l'on considérera comme le Gustave Eiffel russe, ingénieur de structure. Donc déjà, les élites...
Oui, mais on a toujours l'impression que ça démarre plutôt, disons, dans les années 20, cette affaire.
Non, c'est une fascination. Une idéalisation de l'Amérique et une projection sur l'Amérique. C'est l'idée que la Russie, qui n'est pas du tout bolchevique, va devenir un nouveau monde. Un nouveau monde qui va être meilleur que le premier nouveau monde, c'est-à-dire l'Amérique. Ce que la géographie semble confirmer, n'oublions pas que jusqu'en 1867, l'Alaska était russe, que les Russes avaient des comptoirs en Californie, donc c'était une puissance américaine et partie de l'ouest vers l'est, alors que les Américains étaient partis à la conquête de leur territoire de l'est vers l'ouest. Donc, il y a une espèce de parallélisme géostratégique, si l'on veut. Bon, mais ce qui m'intéresse, c'est comment cette idéalisation de l'Amérique, et c'est un thème que je porte depuis fort longtemps, sur lequel j'ai travaillé dans beaucoup de fonds d'archives, et aux États-Unis et en Russie, sur lequel j'ai lu énormément, observé beaucoup, et donc ce thème évidemment explose dans les années 20 de manière étonnante quand Trotsky dit que l'américanisme bolchevique écrasera l'Amérique capitaliste. C'est quand même assez étonnant de voir que les bolcheviques se pensent comme étant une sorte de nouvelle Amérique. Et donc dans les années 20, alors qu'il n'y a pas de relations diplomatiques, ce sont des relations intenses. Les Russes achètent près d'un millier d'usines clés en main aux Américains et construisent leur ossature, celle qui va leur permettre de remporter leur victoire pendant la guerre, grâce aux ingénieurs américains. Et ensuite, il y a cet épisode des gratte-ciels staliniens, qui est à mon avis, un épisode parmi beaucoup, on le comprend.
Enfin, on peut revisiter ce que vous êtes en train de nous dire à travers, par exemple, certaines affiches qui sont extraordinairement belles et dont on ne peut pas savoir vraiment si elles sont effectivement créées par des artistes américains ou par des artistes russes.
Non, il y a beaucoup de convergences, mais dans l'ensemble, il y a une sorte de dépendance symbolique qui s'est poursuivie pratiquement jusqu'à aujourd'hui, dont on trouve la trace dans la langue russe d'aujourd'hui,
par exemple
on parlait, c'est assez intéressant, la langue dans ses transformations reflète les hégémonies et pas simplement les hégémonies culturelles. Un immeuble de bureau à Moscou, ça s'appelait jusqu'aux années 80 Kontori, c'était le terme néerlandais ou allemand. Kontoren. Désormais, ça s'appelle Officy. Vous voyez, donc, je prends que cet exemple, c'est-à-dire que la langue suit ces déplacements. Mais je dirais que je m'intéresse en ce moment à la manière dont les architectes, les urbanistes, les designers russes ont regardé l'Amérique dans la période immédiatement post-stalinienne, sous Khrushchev, qui a envoyé beaucoup d'équipes enquêter aux États-Unis. C'est le moment où les Russes traduisent les livres américains sur les shopping centers et imaginent qu'ils vont. Alors qu'ils imaginent, c'est le slogan officiel, qu'ils vont rattraper et dépasser l'Amérique, mais ils le font en utilisant des formes américaines. Donc c'est ce que j'ai raconté en 6 épisodes et ce que j'espère pouvoir présenter à tout le moins sous forme de livre et sans doute sous forme d'exposition dans les prochaines années. Puisque pour moi, le médium de l'exposition est certainement un des relais les plus efficaces, et en tout cas pour moi le relais le plus ludique, le plus plaisant,
pour faire comprendre pour faire exactement comprendre les recherches
qui m'animent.
Cours. Oui, bien sûr.
Parce qu'on en parallèle, évidemment, avec le
ben oui, comme ça, on peut voir les choses réellement. Voilà. En effet, Jean-Louis Cohen.
On les expose.
Voilà. Donc, 2016, vous préparez un cours sur l'architecture dans la France de Vichy, 1940-1944.
Alors, Terra Incognita, On a beaucoup travaillé sur la période de Vichy, biographie considérable. On sait ce qui s'est passé pour les avocats, pour les médecins, pour les archéologues, pour
les architectes.
Curieusement, alors qu'il y a des travaux très intéressants sur la reconstruction, les chantiers de la reconstruction, je pense au travail de Danielle Voldman, historienne, excellente historienne des villes, il y a fort peu de choses. Et donc, qui a véritablement été engagé dans les politiques d'État de Vichy, architecte ou ingénieur, dont beaucoup continueront au même poste après 1944, comment s'est passée l'épuration de la profession?
Puisque, racontez un tout petit peu.
Bon, il y a eu les mesures antisémites de Vichy ont été appliquées dans toutes les professions libérales, avec notamment un numerus clausus. Comment s'est passé ce numerus clausus?
Il y avait beaucoup d'architectes juifs en France?
Pas énormément, mais un certain nombre, en tout cas beaucoup plus que les 1% qui étaient tolérés par les lois raciales de Vichy. Donc d'accord. Comment est-ce que l'ordre des architectes créé sous Vichy, mais qui était par ailleurs déjà un projet discuté par la Chambre des députés du Front populaire, donc pas considérer que l'ordre des architectes soit un legs de Vichy. Mmh. C'est pas non plus une glorieuse conquête du Front populaire, mais enfin le problème n'est pas là. Le problème c'est comment cet ordre s'est constitué en admettant, selon les cas, ou en rejetant les architectes qui remplissaient des questionnaires où ils devaient cocher la case « arien, oui ou non ». Donc, comment ça s'est passé? Quels étaient les architectes du Conseil de l'Ordre qui ont couvert tout cela? On a reproché à Le Corbusier d'avoir passé 18 mois à Vichy. C'est vrai. On sait que la cure thermale à Vichy dure 6 semaines, et donc que ces raisons n'étaient pas médicales. Il pensait, comme beaucoup de réformateurs qui, pour certains, finiront dans la résistance, il pensait que la Révolution nationale pouvait être l'occasion d'une modernisation du pays. Par ailleurs, il était plutôt élitiste que démocrate, donc sa présence s'explique. Mais que s'est-il passé avec tous les autres, avec Perret, la grande figure de la profession, qui a joué un double jeu,
un double jeu
constant? Que s'est-il passé avec beaucoup d'autres et les jeunes qui ont travaillé, par exemple, pour le chantier de relevé des maisons rurales organisées par Georges-Henri Rivière au musée des arts et traditions populaires? Ils répondaient à un slogan, au slogan du retour à la terre du régime, mais ils le subvertissaient aussi. Donc cette période très complexe, je voudrais la comprendre dans sa globalité et comprendre ce que j'ai fait de manière, je dirais, transversale dans mon livre Architecture en uniforme, c'est-à-dire analyser l'effet de la guerre sur le monde de l'architecture non pas de l'Atlantique à l'Oural, mais du Pacifique à l'Oural, du Japon aux États-Unis et à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la Russie, à la France. Je voudrais le faire de façon plus précise sur la France. Et je n'épuiserai pas la question en 6 leçons d'une heure, mais en tout cas, ces leçons me donneront l'occasion d'avancer cette recherche et de mettre à jour des fonds d'archives jusqu'ici oubliés.
Alors, je vais poser une question d'ignorante totale, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une esthétique de Vichy?
Bon, première chose, il s'est très peu construit sous Vichy.
Ah oui, d'accord.
Peu de bâtiments. Mais il s'est beaucoup dessiné. Et donc, ce que l'on voit dans certains, je prendrai des villes du Val-de-Loire pour lesquelles, qui ont été les premières pour lesquelles des plans de reconstruction ont été dessinés dès 1940, à l'initiative du préfet du Loiret de l'époque, nommé Jacques Morane, très énergique. Donc, les plans étaient faits en 40, 41, 42. Les chantiers ont été faits en 45, entre 45 et 50. Donc, le style MRU, ce qu'on considère parfois comme le style MRU pour ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, il est fait de projets qui ont été dessinés pendant la guerre et de projets qui ont été dessinés après la guerre. Donc les choses sont complexes. Un exemple, l'ensemble de la place Alphonse Fiquet devant la gare d'Amiens. Et la tour, dite tour Perret-Amiens, c'est un projet élaboré en 1943 par Perret. Et c'est un projet qui est particulièrement semblable, je dirais presque identique à ce que Perret dessinait dans les années 30 et à ce qu'il dessinera jusqu'à sa mort en 54. Donc dans ce cas-là, il y a une espèce de stabilité. Vichy aurait planté son drapeau sur du Perret. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation d'architecture sous Vichy était très contradictoire. Il y avait d'un côté des tendances nostalgiques, réactionnaires, folklorisantes, de l'autre côté, mais sur ce terrain même de l'architecture rurale, des modernes qui au contraire utilisaient l'occasion pour montrer que l'architecture rurale annonçait le fonctionnalisme, parce que les bâtiments ruraux pouvaient être lus comme étant pittoresques, mais aussi pouvant être lus comme étant fondés sur l'interprétation directe des usages. Donc je dirais qu'il y a eu certaines écritures sous Vichy, mais on ne peut pas vraiment considérer qu'il y ait un style Vichy. Et je dirais la même chose sur l'architecture de l'Allemagne nazie. Je ne parlerai pas ici d'architecture nazie, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une architecture mise en œuvre sous le régime nazi, qui est aussi bien celle des projets à colonnade d'Albert Speer pour Berlin que celle des usines Heinkel, qui semble avoir été dessinée par Mies van der Rohe.
En effet, mais là, vous revenez vraiment sur des idées reçues, Jean-Louis Cohen.
C'est mon métier, c'est ma bataille, c'est ce que je vais faire.
Who are you? I am the architect. You have many questions, and though the process has altered your consciousness, you remain irrevocably human.
Est-ce que je peux, Jean-Louis Cohen, m'adresser au promeneur parisien que vous êtes?
Volontiers.
Est-ce qu'on pourrait faire un point sur ce que devient cette ville magnifique qu'est Paris? Magnifique avec des lieux devenus tellement laids, comme par exemple, on peut dire la place des Fêtes, qui était vraiment une jolie place et qui est devenue un des endroits les plus déprimants du monde.
Alors, Paris est une ville qui a failli disparaître pendant la guerre. Hitler, initialement, considérait qu'il faudrait la détruire. Hitler a visité Paris. N'oublions pas que le premier geste d'Hitler après la capitulation, après l'armistice de 40, a été de venir à Paris, accompagné de Speer, de visiter Paris, qu'il connaissait fort bien. Il la connaissait mieux que le guide qu'on lui a donné, dont il corrigeait les déclarations.
Il avait lu ou quoi, à Paris?
Il n'avait jamais été à Paris. Il avait lu l'abondante littérature allemande sur Paris.
Ah oui, d'accord.
Et il avait lu notamment quelques livres, dont celui de Fritz Stahl, Paris, eine Stadt als Kunstwerk, Paris, ville, œuvre d'art, qui était aussi une des lectures de Walter Benjamin.
Ouais.
Il n'en tirait pas les mêmes conclusions.
Bien
Mais
sûr.
Après avoir visité Paris, il avait dit, au fond, on va faire beaucoup mieux à Berlin. Ça ne m'intéresse plus. Donc cette idée de ruiner Paris, il l'a oubliée. Elle a été ranimée par l'état-major allemand au moment de la libération, dans une politique de la terre brûlée. Les Allemands ne l'ont pas fait. La municipalité de Paris et l'État l'ont fait en partie à partir des années 50. Donc la politique de rénovation urbaine intense. Elle a été notamment codifiée, et là je fais un petit point d'histoire, par le plan d'urbanisme directeur de Paris en 1959. C'est un document qui prévoyait de détruire les trois quarts de Paris, le nord, l'est et le sud, et qui n'aurait laissé de Paris que ce que Céline décrivait comme étant le Paris des riches. Dans un texte que je trouve sublime, il dit que le Paris des riches, c'est une part de tarte dont la pointe est sur l'île de la Cité, et la croûte longe le bois de Boulogne, et que tout le reste n'est que de la merde. Donc c'est ce que disait Céline, et c'était ce que préconisait ce plan. Et lisez, si vous avez le temps, les délibérations du Conseil municipal de Paris, tous les groupes représentés étaient d'accord.
De droite et de gauche,
la droite, vous voulez dire. La droite, parce que Paris aurait été purgé de ses électeurs populaires, la gauche, parce que ça faisait des logements sociaux pour ses électeurs. Donc personne n'a protesté contre ce projet, qui était bien plus criminel, je dirais, que celui que le plan voisin, que l'on n'a pas fini de reprocher à Le Corbusier. Donc il y a eu un consensus national et municipal pour considérer que Paris, c'était fini, qu'il fallait garder les monuments, et peut-être quelques quartiers-musées comme le Marais, bien nettoyé, et que tout le reste n'avait aucune valeur. C'est-à-dire que le Paris des faubourgs, et même le Paris haussmannien mineur, n'avait aucun charme, n'avait aucun sens, n'avait aucune légitimité humaine comme lieu d'habitation. Donc on revient relativement de loin. Cette politique, elle a été mise en œuvre avec les rénovations urbaines, comme celle de la place des Fêtes, comme celle du quartier de Glacière, quartier où j'ai vécu, ou le quartier national dans le 13e. On sait depuis longtemps, lisez le livre d'Henri Coin, Rénovation urbaine, et je ne sais plus quel est le deuxième terme de son livre, sur la rénovation urbaine qui a été écrit dans les années 60. Donc le tableau était très clair dès cette période.
Donc vous dites que Paris a failli y passer, c'est ça?
Deux grands morceaux ont disparu, d'autres morceaux sont restés. Cette politique s'est enrayée dans les années 70, a été mise en cause pas simplement à l'initiative des élus, mais parce que les cultures ont changé. Je pense là que le traumatisme des Halles, la destruction des Halles, qui a été le point culminant de cette campagne, a eu un effet tétanisant et que les idées ont commencé à changer. L'idée que le Paris du 19e siècle avait une valeur, cette idée a commencé à changer.
Oui, puis de toute façon, on est encore aujourd'hui en train de se demander que faire avec les Halles. C'est une question qui... ça y est, on commence à...
C'est un dossier très complexe, il nous faudrait des semaines pour en parler. Dans le même temps, aujourd'hui, la rénovation urbaine continue, non pas sous forme de grand périmètre, mais il se produit une sorte de rénovation sournoise. Et je ne suis pas un apôtre de la conservation. Je ne pense pas que Paris soit destiné à devenir un musée. Mais je pense que dans une ville comme Paris, il faut une infinie culture pour y créer une architecture moderne, respectueuse, qui ne soit ni dans le pastiche, qui est encore pire que la destruction, parce que cela brouille la perception des choses, ni dans le pastiche, ni dans la violence. Donc je crois qu'il y a assez de bons professionnels pour qu'on puisse, malgré tout, attendre des résultats positifs. Je ne suis pas totalement désespéré.
Est-ce qu'on fait toujours appel aux bons professionnels, par exemple ?
Les mécanismes de la commande sont très très complexes. Les promoteurs, en général, les promoteurs ont tendance à fabriquer des produits homologues parce que ce sont ceux que leurs commerciaux leur recommandent de faire. Et ils leur disent toujours qu'il y a des projets innovants ou des projets simplement complexes et difficiles à comprendre ne se vendront pas. Donc il y a une dynamique du marché. Paris est une ville comme toutes les villes du monde aujourd'hui. Peut-être à l'exception de Pyongyang, et encore c'est en train de changer là-bas aussi, livré au marché.
Vous êtes pessimiste ?
Je suis d'un optimisme modéré. Je ne suis pas catastrophiste. Je pense qu'il y a des forces d'imagination, d'invention, de culture, qu'elles ont du mal à se faire entendre, mais je les observe avec beaucoup de sympathie et de bonne humeur.
Moi, j'avais étudié toutes les choses de l'art en dehors des écoles et en dehors des enseignements standards, et j'avais mangé de la vraie nourriture. Plastique, esthétique, n'est-ce pas, avec passion. Et je la mettais dans mon œuvre qui était par esprit de raison, d'une simplicité écrasante pour les gens, mais riche pour qui sait voir, n'est-ce pas, et sait découvrir. L'architecture est fonctionnelle par définition. Si elle n'est pas fonctionnelle, qu'est-ce que c'est ? La saloperie. Bon, l'architecture, je l'ai défini, le jeu savant correct et magnifique des formes sous la lumière, n'est-ce pas ? Ben, c'est ma première définition. La première phrase que j'ai écrite sur l'architecture, ben, c'est pas si mal que ça. Ça ouvrait tout le devant de la scène, n'est-ce pas ? Et ça permettait de créer.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Jean-Louis Cohen, professeur invité à la chaire Architecture et Formes urbaines. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec la leçon inaugurale du professeur Hugues de T, titulaire de la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Belle journée à tous à l'écoute de France Culture.